Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à titre posthume en 1842, Gaspard de la Nuit est l'œuvre majeure et unique d'Aloysius Bertrand. Le recueil porte le sous-titre « Fantasy » à la manière de Rembrandt et de Callot, indication décisive pour comprendre son projet produire, par une prose dense et rythmée. Des tableaux brefs où la lumière, le détail visuel et la déformation grotesque importent autant que le récit. Bertrand y compose une suite de poèmes en prose, qui traverse des villes anciennes, des ruelles nocturnes, des scènes populaires, des légendes médiévales et des apparitions fantastiques. L'ouvrage ne propose pas une intrigue continue, mais un univers cohérent, encadré par la mystérieuse figure de Gaspard. Sa singularité historique tient à son rôle pionnier dans le développement du poème en prose français, avant Baudelaire. Toutefois, le lire uniquement comme une origine serait réducteur, le livre possède une esthétique propre, faite de concision, d'ironie, de noirceur et d'attention picturale. Il invite à lire chaque pièce comme une vision autonome, tout en observant les échos qui construisent sa nuit imaginaire. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le poème en prose comme forme brève, visuelle et rigoureusement composée, Gaspard de la Nuit est souvent présenté comme un texte fondateur du poème en prose. Mais son innovation ne consiste pas simplement à écrire de la poésie sans vers. Bertrand construit des unités très resserrées, organisées par les reprises sonores, les parallélismes, les brusques changements de perspective et la précision du vocabulaire. Chaque texte tend vers l'effet d'une estampe ou d'un petit tableau, il sélectionne peu d'éléments, les dispose avec netteté. Puis laisse une image finale concentrer l'émotion ou l'inquiétude. Cette économie distingue le recueil de la prose narrative ordinaire, qui développerait plus longuement une action, des personnages et leurs motivations. Le lecteur est placé devant une scène dont il doit éprouver la cadence et reconstruire les relations implicites. Les blancs, la ponctuation et les répétitions participent donc au sens, car ils règlent le regard et l'audition. Cette forme permet à Bertrand de faire coexister la notation concrète et l'irréel sans devoir les expliquer. Une fenêtre éclairée, un bruit de cloche ou une silhouette dans l'ombre peuvent devenir des foyers de transformation imaginative. La leçon formelle du livre reste actuelle, la brièveté ne réduit pas la portée poétique lorsqu'elle est soutenue par une composition précise. Elle rend au contraire chaque détail plus actif et donne à la prose une intensité qui ne dépend ni de la versification régulière ni de l'ampleur narrative. Deuxièmement, un Moyen-Âge imaginaire entre mémoire urbaine pittoresque et grotesque, le Moyen-Âge de Bertrand n'est pas une reconstitution historique méthodique. Il s'agit d'un imaginaire nourri par les villes anciennes, les chroniques, les métiers, les fêtes, les croyances et les vestiges architecturaux. Dijon occupe une place importante dans cet horizon, mais le recueil fait aussi circuler ses visions vers Paris, la Flandre, l'Espagne ou l'Italie. Cette géographie élargie ne vise pas la vraisemblance documentaire, elle donne au passé une densité sensible ou une place, une tour. Une taverne ou une église peuvent concentrer une époque entière. Bertrand associe volontiers le pittoresque à ce qui dérange. Les mendiants, les ivrognes, les bourreaux, les lépreux et les figures marginales empêchent toute idéalisation chevaleresque. Le médiéval devient ainsi un espace de contrastes sociaux et visuels, où le burlesque côtoie la violence et où le sacré voisine avec le trivial. Cette tension explique que le livre demeure plus complexe qu'une simple nostalgie romantique. L'ancien temps sert à déplacer le regard sur le présent en faisant surgir des formes de misère, de superstition et de pouvoir qui ne sont pas entièrement révolues. Pour le lecteur, ce choix esthétique montre comment une littérature du passé peut éviter le décor inerte, elle devient vivante lorsqu'elle accueille les corps, les voix et les discordances, plutôt que de se limiter aux emblèmes héroïques. Troisièmement, la nuit fantastique comme expérience de l'incertitude et de l'angoisse, la nuit du titre désigne moins un cadre uniforme qu'une condition de perception. Dans l'obscurité, les contours deviennent instables, les sons prennent une importance excessive et les êtres ordinaires peuvent sembler traversés par le surnaturel. Bertrand tire de cette situation une poétique de l'incertitude, le lecteur ne reçoit pas toujours une explication qui séparerait clairement l'hallucination, le rêve, la légende et l'événement réel. Des ondines, des sorcières, des démons et le nain Scarbot apparaissent dans cet espace ambigu, mais ils ne relèvent pas d'une mythologie systématiquement ordonnée. Leur fonction est d'intensifier les peurs, les désirs ou les troubles du sujet qui perçoit. Les pièces consacrées à Scarbot, notamment, transforment la chambre et les objets familiers en lieux d'intrusion. L'effet inquiétant naît de la disproportion entre un espace clos et une présence qui paraît s'y multiplier ou s'y dérober. Le fantastique de Bertrand est également sensoriel, les éclats de lune, les ombres, les cloches et les frottements construisent une atmosphère avant de former un sens univoque. Cette méthode annonce une part de la modernité du recueil. Elle montre que l'étrange peut provenir non d'une explication spectaculaire, mais d'une attention accrue aux perceptions. Lire ces textes demande donc d'accepter une part d'indécision, non comme une lacune, mais comme le mécanisme même de leur puissance. Quatrièmement, Rembrandt et Callot comme modèle de clair-obscur et de déformation expressive. Le sous-titre du recueil associe explicitement Bertrand à Rembrandt et à Jacques Callot. Cette référence ne doit pas être comprise comme une imitation technique de la peinture ou de la gravure. Elle indique surtout une méthode de composition. De Rembrandt, Bertrand retient le clair-obscur, c'est-à-dire la manière dont une source lumineuse isole un visage, un objet ou un geste au sein d'une obscurité épaisse. De Callot, il retient davantage l'énergie de la scène populaire, la multiplicité des figures, la caricature et le goût du grotesque. Ces deux pôles permettent au livre de varier constamment entre recueillement sombre et agitation carnavalesque. Les images n'est jamais un simple ornement descriptif. Elle organise le texte, impose un angle de vue et produit une tension morale ou affective. Une lumière de lune peut conférer une beauté fragile à un paysage, tandis qu'elle révèle aussi une potence, une silhouette inquiétante ou la pauvreté d'une rue. Cette ambivalence explique la force des images de Bertrand, elle refuse de fixer le beau du côté de l'harmonie seule. La laideur, l'excès et la violence peuvent eux aussi recevoir une forme travaillée. Le lecteur gagne à considérer les poèmes comme des compositions visuelles en mouvement, attentives au cadrage et à la distribution des contrastes. Cette approche éclaire la densité de textes très courts et rappelle que leur origine picturale est une véritable pensée de la forme. En dernier lieu, une influence durable à lire sans réduire Bertrand à un précurseur de Baudelaire, l'importance de Gaspard de la Nuit dans l'histoire littéraire est indiscutable. Baudelaire a reconnu sa dette en Bertrand lorsqu'il a pensé le poème en prose et le recueil a ensuite été rapproché de Rimbaud, du surréalisme et de tradition moderne du fantastique. Il a également inspiré Maurice Ravel, dont la suite pour piano reprend les visions de Ondine, Le Gibet, Escarbot. Ces filiations aident à mesurer l'originalité de Bertrand, mais elles risquent aussi de transformer le livre en simple étape vers des œuvres postérieures plus célèbres. Or, Gaspard de la Nuit possède une unité esthétique qui ne se confond ni avec le spleen urbain baudelairien, ni avec l'écriture automatique surréaliste. Son monde est profondément marqué par le romantisme, par les cultures régionales, par le goût des arts visuels et par l'imaginaire médiéval. Sa prose demeure plus sculptée et plus miniature que celle de nombreux héritiers. L'influence doit donc être comprise comme une transmission de possibilités formelles, faire de la prose un espace de rythme, de vision et de rupture, sans abolir la précision du travail verbal. Pour un lecteur contemporain, situer Bertrand dans cette histoire permet de identifier ce que les lectures généalogiques révèlent et ce qu'elles cachent. Elles révèlent la fécondité d'une invention formelle. Elles cachent parfois la voix singulière d'un auteur qui ne cherchait pas à fonder une école, mais à construire un livre de vision autonome. En conclusion, Gaspard de la Nuit s'adresse d'abord aux lecteurs de poésie française qui souhaitent comprendre concrètement comment la prose peut devenir poétique sans adopter les cadres du vers. Il intéressera aussi les lecteurs de romantisme, de littérature fantastique, d'histoire culturelle du XIXe siècle et les amateurs de liens entre texte, peinture et musique. Sa lecture est particulièrement profitable à qui accepte de ralentir chaque pièce, demande moins de suivre une intrigue que d'observer une construction d'images, de son et de rupture de ton. Une introduction critique ou des notes peuvent être utiles, car certains mots, références et tours de langue renvoient à un imaginaire ancien. Cette difficulté haine n'est toutefois pas gratuite, elle fait partie de la texture historique et visuelle du livre, par rapport à d'autres recueils de prose poétique. Bertrand se distingue par la vigueur de son clair-obscur, sa concision presque gravée et son refus de séparer le sublime du grotesque. Là où une poésie romantique peut chercher l'effusion ou l'ampleur, il privilégie le fragment intensément cadré. Là où le fantastique peut expliquer ses monstres, il maintient une inquiétude sensorielle et équivoque. Son intérêt ne réside donc pas seulement dans son statut de précurseur de Baudelaire. Le recueil demeure une expérience littéraire autonome, capable de montrer comment la ville ancienne, le rêve nocturne et la misère humaine peuvent tenir dans quelques paragraphes d'une précision remarquable. Si vous souhaitez soutenir Aloysius Bertrand, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.